Mesdames et messieurs, bon après-midi.
Je souhaite la bienvenue au Canada et à Toronto. Welcome.
Alors, bienvenue au Canada, bienvenue à Toronto et bienvenue à cette session d'importance. Mon nom est Joanne Chetta. Je travaille pour le réseau juridique VIH-SIDA, une association des droits de la personne ici à Toronto. Alors, l'accès universel comme cri de ralliement a illustré au niveau politique l'importance d'augmenter tous les éléments de la réponse au VIH-SIDA, y compris les contrôles pour le VIH-SIDA. Dans plusieurs pays, comme on le sait, seulement un petit pourcentage des gens qui vivent avec le VIH savent qu'ils sont séropositifs. Et ceci doit nous préoccuper de façon urgente. Au début du VIH, il y avait à l'époque plusieurs demandes de contrôle obligatoire, de même que la criminalisation des séropositifs et d'autres mesures qui venaient de la peur de cette nouvelle maladie. On a très rapidement compris au niveau des militants du SIDA que de protéger la vie privée de ceux qui vont subir un contrôle du VIH et les aider à comprendre le VIH et le contrôle du VIH avant de subir ce contrôle pourrait être la seule façon possible pour inciter les gens à se faire tester. Malheureusement, nous sommes en compétition avec la salle d'à côté. Nous allons essayer d'augmenter le volume. Alors, l'approche au contrôle du VIH adoptée par la plupart des pays et acceptée par l'OMS à l'heure actuelle, qu'on appelle le testage volontaire et le counseling, représente la préoccupation pour les droits des gens affectés par les séropositifs qui se manifestent par ce qu'on appelle les 3C, le consentement, c'est-à-dire le consentement informé et spécifique au test, la confidentialité des résultats et le counseling avant et après le contrôle. Ces éléments, encore une fois, étaient en réaction à la stigmatisation, la démonisation et la criminalisation rampante des gens affligés du VIH et ceux à risque. Cette approche VCT est aussi caractérisée par les tests étant normalement provenant d'une demande des gens à être contrôlés. Nous sommes à un moment potentiellement très important au niveau du changement des politiques sur les contrôles du VIH. Récemment, des cliniciens d'influence, des spécialistes des politiques du SIDA et des militants vétérans du SIDA ont demandé une nouvelle approche politique qui mettrait davantage d'insistance sur les tests demandés par les fournisseurs de services de santé. L'approche initiée par les soignants représente une gamme de pratiques qui nous viennent avec ce qu'on appelle un mélangeant de termes. Une offre routinière de contrôle du VIH dans certaines situations, y compris dans les hôpitaux et en particulier aux femmes enceintes, a été demandée et est maintenant la politique officielle de plusieurs pays. Le niveau auquel cette offre routinière permet la possibilité de counseling pré-test et le processus de consentement informé et spécifique n'est pas toujours clair, ni dans l'énoncé de la politique, ni dans le dénouement de cette politique dans la réalité. Certains ont exigé ce qu'on appelle souvent ou des fois les contrôles de routine. Ce n'est pas la même chose que l'offre routinière par laquelle les gens, dans certaines situations, seraient contrôlés pour le VIH à moins qu'ils ne le refusent catégoriquement. Les partisans des tests initiés par le demandeur ont milité en sa faveur. Plusieurs ont dit que le counseling volontaire et les contrôles ont échoué. Ils n'ont été ni rapides ni suffisamment efficaces pour satisfaire l'urgence du besoin de contrôle, surtout lorsque les traitements pour le SIDA, de même que la diminution de la transmission de mère à fille, ces mesures sont devenues plus disponibles. Des fois, ils ont suggéré que de faire des tests VIH plus routiniers va avoir pour effet de diminuer la stigmatisation des gens qui vivent avec le VIH. Certains ont suggéré que dans les zones à prévalence élevée, il y a déjà suffisamment d'informations au sujet de la maladie, que le counseling pré-test ne fournisse pas suffisamment de bénéfices accessoires pour justifier le coût élevé d'avoir des conseillers bien formés disponibles dans tous les services de contrôle. Même des fois, ils ont accusé ceux qui continuent à militer en faveur du counseling volontaire et du contrôle de nuire aux réponses rapides à la maladie. On a suggéré, plusieurs conférenciers ont déjà suggéré que les objectifs d'accès universel ne seront pas atteints sans qu'il y ait d'approche fondée sur les droits de la personne. La stigmatisation, la criminalisation et les abus des droits de la personne des gens qui vivent avec le sida et des populations vulnérables, malheureusement, se portent très bien. Effectivement, la criminalisation de la transmission du VIH et son exposition semble augmenter dans les lois de plusieurs pays. Ceux dont le travail quotidien porte sur la protection des droits de la personne de ceux qui sont le plus directement dans le chemin de cette épidémie ont soulevé des questions sur la sagesse d'abandonner les protections des droits de la personne qui font partie intégrante des politiques de contrôle du VIH jusqu'à présent. De façon plus générale, il y a des questions de pratique et qui sont soulevées par cette discussion. Comment les offres routinières sont-elles vécues par les gens, y compris par les gens qui ont déjà peur des services de la santé, dans des endroits où il y a des différences d'éducation et de classe entre les soignants et les soignés? Est-ce que le opting out, le refus d'un test, est-il possible? Qu'arriverait-il si les tests routiniers signifiaient qu'il y avait moins d'occasions de comprendre qui est le plus à risque d'issues néfastes de la divulgation, y compris la violence et le harcèlement? Y a-t-il des situations où les approches initiées par le soignant ont été bien analysées pour l'efficacité et leur rentabilité, non seulement au niveau de l'indicateur du nombre de contrôles, mais au niveau de la diminution de la stigmatisation, de l'abandon, la violence et les autres issues néfastes de la divulgation de son statut de séropositif? Nous avons un groupe remarquable d'experts aujourd'hui pour mettre de la viande autour de cette discussion. Il y a trois personnes qui travaillent au Botswana, un pays qui a une expérience émergente dans les contrôles initiés par les soignants, de même que d'autres personnes proches de cette expérience dans d'autres pays et dans le domaine des droits de la personne. Étant donné qu'il y a tant de conférenciers, malheureusement, je vais devoir être très sévère au niveau de la limite de temps. Vous avez seulement 5 minutes. Vous le savez, j'en suis sûr. Et je le fais afin de permettre des questions de la salle à la fin. Je vais faire une présentation très rapide de nos conférenciers et je vais les inviter dans le temps limité qu'ils ont pour qu'ils se présentent davantage s'ils le souhaitent. Alors, sans plus tarder, c'est un honneur pour moi de vous présenter le premier conférencier qui est l'honorable ministre de la Santé du Botswana, Sheila Tlo, qui est ministre de la Santé depuis 2004. Madame la ministre. Merci beaucoup. Comme vous l'avez mentionné, je suis une nouvelle ministre de la Santé. Donc, je suis une nouvelle ministre de la Santé, mais avant de devenir ministre de la Santé en 2004, j'étais une militante du VIH-SIDA. Et je travaillais très fort pour m'assurer que les femmes, la voix des femmes soit entendue. Donc, j'ai créé la Société pour les femmes et le SIDA en Afrique et j'ai participé dans beaucoup de questions politiques que le gouvernement avait mis sur pied. Alors, sans plus tarder, voyons où nous en sommes. Alors, vous allez devoir lire très rapidement, parce que je ne répéterai pas tout ce qu'il y a sur les diapos. Alors, voici l'historique. Le problème était simplement que malgré un système de la santé de qualité et des services qui étaient en place, il y avait peu d'utilisation. Alors, on a dû s'asseoir et on a eu une conférence nationale sur les contrôles où tous les intervenants ont participé, y compris moi-même, en tant que représentante de la Société pour les femmes et le sida au Botswana. Mais parce que le Centre Corbin des gens qui vivent avec le sida, qui est une organisation communautaire pour les gens qui vivent avec le sida, comme présidente du conseil. Maintenant, les tests routiniers ont été introduits. Mais regardez depuis les deux derniers points. L'offre routinière de contrôle avec une approche de refus a été démarrée, mais ça a été accompagné des tests rapides. Donc, j'espère que ça éclaircit plusieurs choses dans votre esprit. Maintenant, les objectifs étaient qu'il fallait que, pour faciliter l'accès à la prévention, aux soins, aux traitements et dans les systèmes de soutien dans le pays. Et ce qui est le plus important, c'est nous voulions diminuer la stigmatisation. Donc, vous avez tout ça et ce sont les services qui sont offerts au Botswana. Maintenant, les indications. Toute personne qui voulait un contrôle pouvait le subir. Voici les résultats. Si vous regardez, vous voyez qu'en 2004, on n'a même pas de chiffres, mais en 2005, après ça, on avait 177 000 à qui on a offert le test, et de ceux-là, 157 894 ont accepté, donc 89 %. C'est un chiffre énorme comparé à 80 000 pour les centres de contrôle volontaire. Donc, c'était une participation énorme. Maintenant, je ne veux pas m'attarder sur la question, mais on a parlé de droits de la personne. Ce que l'on a fait, avant que je devienne ministre, j'ai travaillé avec Decisions for Human Rights. Et 11 mois après que cette politique a été introduite, 11 mois, nous sommes allés dans les campagnes, 7 districts, et on a regardé ce qui se passait au niveau de leurs expériences. Et comme on peut le voir, la plupart des gens sentaient qu'ils avaient pris leur propre décision, qu'ils n'avaient pas été maltraités, la confidentialité a été maintenue, ils n'ont pas été menacés par leurs partenaires. Et oui, il y a eu du counseling post-test, c'est un peu plus faible, mais étant donné que les gens ne reviennent pas pour le résultat. Donc, effectivement, c'était merveilleux que plusieurs personnes incitaient d'autres personnes à subir un contrôle. Et dans notre échantillon de plus de 1000 personnes, le niveau de contrôle était de 48 %. Et c'est relativement élevé. Je pense qu'au Botswana, nous avons le niveau de contrôle le plus élevé, j'en suis convaincu, à l'échelle nationale. Donc, la conclusion, les contrôles de routine fonctionnent et c'est fortement acceptable, comme vous avez pu le voir. Par contre, et nous avons eu une adoption très forte, mais ça nous a aidé. Si vous regardez les infections des enfants, nous avons une adoption de tests de 91 %. On a eu une diminution de transmission de mère à fille. Ça a diminué d'environ 30 % et maintenant, on est seulement autour de 6 %. Donc, ça, c'est vraiment un avantage. Les ARV, les antirétroviraux, à environ 60 % y ont accès. Et l'OMS dit 85. Moi, j'aime mieux ce chiffre, c'est plus élevé, mais enfin, c'est autour de 70 dans notre cas. Mais la mise en garde, c'est que je veux vous dire que vous avez besoin d'une formation agressive des travailleurs de la santé sur la politique, les droits de la personne et sur l'éducation. C'est la pierre angulaire de votre réussite et c'est ce qu'on essaie de faire au Botswana. Merci beaucoup. Oh, il me reste encore 16 secondes. Madame la ministre, l'exemple que vous avez donné au niveau du respect du temps est fantastique. Il nous fait plaisir d'avoir avec nous aussi du Botswana, Grace Sidio, qui est une agente chargée de projet à la communauté internationale de femmes qui vivent avec le VIH-Sida à Havaron. Merci. Eh bien, en tant que femme qui travaille pour la communauté internationale des femmes qui vivent avec le VIH, et aussi en tant que femme qui vient du réseau des femmes qui vivent avec le VIH du Botswana, mon point de vue, je n'encouragerai pas personnellement d'autres femmes à subir un contrôle, parce qu'il y a tant de problèmes qui demeurent après qu'ils apprennent leur séropositivité. À l'heure actuelle au Botswana, Les politiciens et les meneurs d'opinion ont blâmé la contagion du VIH avec les femmes qui deviennent enceintes sachant qu'elles sont séropositives. Et il semble aussi que lorsque on a lu le programme des femmes qui ne connaissent pas leur statut et celles qui deviennent enceintes, soit par choix ou non, ont été accusées publiquement d'avoir abusé de leur partenaire. Et donc ça, c'est une inégalité entre les sexes qui existe. Le préjugé des pré-tests, les femmes sont reçoivent beaucoup d'attention, surtout au niveau des services prénataux. Je pense que du point de vue d'une femme qui vit avec le VIH, le gouvernement devrait s'éloigner de voir ceci comme étant simplement une collecte de données. Pas dans un système de santé basé sur les droits de la personne. L'approche de refus est difficile pour les femmes qui, des fois, refusent un test pour ne pas avoir à consulter leur partenaire ou simplement parce que psychologiquement, elles ne seront pas prêtes à faire un test, à subir le test. Culturellement et socialement, les femmes au Botswana ont de la difficulté à refuser un test de quelqu'un qui est dans une position d'autorité. Une fois séropositive, elle reçoit un soutien matériel, les antirétroviraux, mais après la naissance du bébé, il y a un manque de soutien psychologique et émotif, surtout pour faciliter la divulgation à la famille et aux partenaires. Et ceci aussi a un impact sur les femmes qui allaitent et aussi pour le retour du contrôle des enfants pour donner du suivi aux enfants infectés. Alors ici, nous avons un problème de stigmatisation. En tant que personne qui vit avec le VIH, je me pose la question. Pourquoi le gouvernement du Botswana veut-il offrir une offre routinière de contrôle anti-sida dans le système de santé avec un soutien adéquat? Le Botswana devrait augmenter sa couverture de contrôle volontaire et utiliser les initiatives de la société civile. Plusieurs d'entre elles étant dirigées par des gens qui sont séropositifs. En tant que personne qui a dû accepter son statut de séropositif, je sais qu'il est important d'être prêt de vivre positivement après le résultat. Les gens qui ne sont pas préparés à recevoir un diagnostic de VIH trouvent difficile d'accepter toutes les réalités qui viennent avec le premier diagnostic et qui va avoir, et ceci peut avoir un impact sur le respect de la posologie du traitement. Et on sait tous que si vous ne respectez pas votre traitement, vous allez avoir des problèmes. Vous vous retrouvez en devenant résistant aux médicaments et ça provoque d'autres difficultés. Donc je ne suis pas très en accord avec le test de routine. Merci. Alors, Christine Stegling est la directrice de Bonela, le réseau du Botswana sur l'éthique, le droit et les droits de la personne. Il nous fait plaisir de vous accueillir, Christine. D'accord, alors bon après-midi tout le monde. Je suis la troisième du Botswana. Honorable ministre, merci d'avoir donné une présentation sur ce que nous avons fait au Botswana il n'y a pas très longtemps. Je vais vous parler un petit peu de notre point de vue en tant que société civile sur l'initiative de refus de traitement. Nous croyons tous que les contrôles du VIH est un point de départ pour tout programme de soins, y compris l'accès au traitement et le soutien psychosocial. On est tous d'accord avec ça. On est tous d'accord qu'il est important que le maximum de personnes aient accès au contrôle du VIH et utilisent les contrôles. Mais là où on n'est pas d'accord, c'est comment démarrer le test et quel devrait être le processus du contrôle. Malheureusement, ce désaccord a été discuté de façon plutôt polarisée, mettant les militants des droits de la personne d'un côté et les médecins et professionnels de la santé à l'autre. C'est comme si on disait que les services de santé n'aient pas besoin d'être compris au niveau des droits de la personne, que ce soit au niveau à la santé ou les niveaux à l'information ou au respect de la droit privé. Tous ces droits sont interreliés et permettent à des citoyens informés de prendre de bonnes décisions pour leurs soins et le mieux-être de leur communauté. En tant que militant des droits de la personne au Botswana, on a trouvé très déplorable qu'on soit perçu comme étant des obstacles à la santé publique en tant que personne qui en fait du VIH une maladie exceptionnelle. Même si l'on croit que le VIH ne soit pas comme toutes les autres maladies, plusieurs des principes que l'on défend, comme le droit au consentement informé, le droit au respect de la vie privée, le droit d'être protégé de la discrimination devrait s'appliquer au traitement de toutes les maladies. Nous présumons que les praticiens de la santé ne font aucun test ou procédure sans en discuter avec leurs patients au niveau du besoin et des conséquences de ces tests et que le test ne sera entrepris qu'après le consentement du patient. C'est dans cet esprit qu'au début, notre réseau sur l'éthique et le VIH-SIDA a été d'accord avec l'offre routinière d'un test en se disant que ça aurait dû se produire longtemps, en notant que les gens donnent un consentement informé à ce test. Mais dans la situation actuelle, il semble douteux que les patients comprennent leur droit de refuser le test compte tenu du déséquilibre entre les professionnels de la santé et les simples citoyens. Le manque d'informations sur le droit de refuser le test est aussi devenu apparent durant une recherche récente qui a été faite pour le Conseil national sur le SIDA par rapport aux lois du Botswana. Les chercheurs ont remarqué qu'il est regrettable de constater des discussions qu'ils ont eues avec les informateurs clés que les professionnels de la santé en général ne font pas suffisamment pour informer leurs patients du droit de refuser le contrôle. Il semble que le chaînon manquant dans plusieurs débats sur les tests est la discussion sur le contexte social du test. La discrimination liée au VIH se produit et à ce jour au Botswana, le Botswana n'a pas mis sur pied des lois pour protéger les droits de ceux qui sont infectés du VIH. En tant qu'organisation, nous avons une clinique de droit et on donne de l'assistance juridique à ceux qui ont subi cette discrimination. C'est une réalité malheureuse qu'à tous les jours, on voit environ 2 clients qui se plaignent d'avoir été congédiés, refus d'emploi ou traitement inéquitable sur le lieu de travail. Dans les faits, le Botswana a un jugement de la Cour d'appel qui dit qu'il est légal qu'un employeur exige un test, un contrôle du VIH comme prérequis d'emploi et que ça peut être de la décision de l'employeur de refuser l'emploi à un séropositif. Cette décision n'a pas été contestée dans les tribunaux et nous n'avons pas de loi pour la contrer. Il y a d'autres parties de notre cadre juridique qui remettent en question si on a créé un environnement protégeant pour ceux qui vivent avec le virus. Par exemple, le Botswana a adopté le concept de la confidentialité partagée qui viole des fois le droit d'une personne à la vie privée. Et comme dans plusieurs autres pays, on n'a pas de loi qui protège les femmes de la violence conjugale. Pourquoi vous dis-je tout ceci? Mon argument est-il que si ces lois étaient en place, je serais d'accord au contrôle du VIH sans consentement informé. Non, je ne le serais pas. Non, je ne le serais pas parce que je crois que les gens devraient faire partie du processus décisionnel lié à leur santé. Parce que c'est seulement lorsqu'on aide aux gens à devenir des agents de leur propre destin dans un environnement qui protège leurs droits de la personne que nous allons vraiment effectuer un changement à l'épidémie du VIH au Botswana. Peut-être qu'en conclusion, on devrait se poser la question. Contrôler pourquoi? Avons-nous des données qui nous indiquent que les gens qui n'ont pas consenté à leur test vivent plus longtemps ou se protègent d'infection et de réinfection et le respect de leur thérapie? Est-ce que connaître son statut de séropositif est synonyme à une attitude plus positive? Les gens jouent avec les chiffres. Ils disent « Ah, il y a une augmentation de tests », mais ils ne parlent pas de l'impact que ça a en termes de revirement de l'épidémie. Nous devons comprendre qu'à moins de faire des principes des droits de la personne une partie intégrante des soins de la santé, on ne pourra pas arriver à un accès universel pour tous. Merci.
Oops.
Sophia Gruskin est directrice du programme sur la santé internationale et les droits de la personne à l'Université Harvard et professeure adjointe dans les droits de la personne et santé au département de population et santé internationale à Harvard, encore une fois. Alors, bonjour tout le monde. J'aimerais débuter en disant que nous voulons tous mettre fin à cette épidémie et on aimerait le faire de façon très efficace, mais aussi tout en mettant beaucoup d'attention sur la sécurité des gens et surtout pour les tests de sida, surtout d'un point de vue des droits de l'homme et de la santé. Pourquoi nous faisons les contrôles? Comment les contrôles se font-ils? Et si les façons de faire, si les gens comprennent bien les implications des résultats de ces tests et s'ils ont accès au traitement. Maintenant, le fait que le traitement devient de plus en plus accessible veut dire qu'il faut aussi accroître le niveau de contrôle. Mais ces tests viennent brouiller la question aussi. Sans ces efforts d'augmenter les contrôles, on dirait que c'est la santé internationale qui va à l'encontre des droits de la personne. On voudrait que ça soit un modèle pour en arriver à une meilleure pratique. Alors, ceci dit, j'aimerais vous suggérer 4 points. Le premier, c'est qu'il faut bien surveiller le libellé et les acronymes. C'est pas seulement de la sémantique, les implications sont critiques. La langue, le libellé, est toujours très vague, n'éclaircit pas si les tests sont offerts de façon routinière ou imposée. Et il faut faire très attention, il faut savoir qu'est-ce qu'on inclut lorsqu'on parle de contrôle routinier. Il y a une différence entre un acronyme VCT et TC en tant qu'approche. Et bien que le changement d'acronyme semble subtil, ceci donne lieu à une foule de questions quant aux stratégies élaborées. Ça ne veut pas dire que VCT n'est pas la seule façon. Mais pour moi, je ne comprends vraiment pas que si le dépistage est fait dans une installation de santé, comment se fait-il que le consentement éclairé n'est plus la pierre angulaire d'une bonne pratique? C'est très difficile entre une pratique médicale et une pratique vétérinaire. Maintenant, mon deuxième point. Pourquoi les tests se font-ils? Est-ce que c'est pour qu'on puisse faire rapport de ce chiffre au gouvernement pour avoir une bonne statistique? Comme ça, on a l'impression qu'on fait quelque chose. Ou est-ce que c'est pour que les gens puissent avoir une mise à jour sur leur état? On a l'obligation d'assurer que si les tests se font, l'accès aux soins et aux traitements n'ont pas seulement une théorie, mais une pratique bien mise en œuvre. La troisième question. Comment se fait-il qu'on parle des exemples de changements dans les politiques des tests de sida? Et surtout lorsque ces changements s'opèrent sans l'opinion des participants. San Francisco, Lesotho, Botswana sont cités en exemple et parfois par erreur, comme étant des genres similaires de tests routiniers. On peut avoir une offre de tests avec un consentement éclairé. C'est pas du tout la même chose que d'avoir un contrôle systématique avec une politique d'abandon ou de refus. Il faut être très, très clair du contenu de ce qu'on offre dans chacun des cas. Quel est le contexte du counseling pré-test? C'est quoi ce counseling? Quand on encourage quelqu'un à se faire tester, quelle forme revêtit-elle? Maintenant, la façon dont on écrit ces politiques, c'est une chose, mais la façon dont on les interprète, c'est tout autre. Si vous avez une politique de contrôle routinier qui ne parle pas des groupes vulnérables ou les transgendres, même avec un bon libellé, la politique est différente si c'est un fonctionnaire de la classe moyenne se présente volontairement pour un autre problème de santé et on lui offre le test et on lui explique. Et j'imagine qu'il y aurait l'occasion de prendre une bonne décision éclairée et avec du counseling post-test dépendant des résultats. Maintenant, la même politique s'appliquant à une femme pauvre qui est enceinte et surtout vers la fin de sa gestation. comment le counseling se fait avant et après, et comment la femme sera informée si jamais le test est positif, et aussi toute cette notion de confidentialité. Sans parler l'accès au traitement, non seulement pour l'enfant, mais pour sa femme et la femme, une fois qu'elle aurait donné naissance à son enfant. Maintenant, pour conclure, il faut s'assurer que les décisions sur les politiques de contrôle régulier soient à l'écoute des inquiétudes et des préoccupations de la communauté. Il faut avoir des preuves sur les effets de ces politiques et les pratiques qu'elles génèrent de façon qui sont systématiques et comparables. Il faut faire très attention pour que les gens qui sont responsables pour évaluer ces politiques se concentrent non seulement sur les résultats souhaités, comme l'élimination de la stigmatisation, mais aussi les effets non désirés. Ça, il peut avoir une forte stigmatisation. Si les tests sont connus et positifs, la personne peut être victime de violence. Et aussi, tout le fardeau sur le système de santé. Alors, oui, il faut élargir et accroître les tests. Et je crois que ces approches sont pleines de bonnes intentions, mais il faut s'assurer que les politiques, les pratiques soient saines et solides dans la santé publique et pour les droits de la personne, non seulement pour des raisons morales et juridiques, mais pour être efficaces. Oui, il est temps de passer aux actes, mais il faut passer aux bons actes. Merci. Mark Haywood est le directeur du LAIDS Law Project à Johannesburg et secrétaire national du Treatment Action Campaign et président Law, Ethics and Rights Task Team. Bon, c'est pas tout à fait à jour, mais... Alors, bonjour. Je suis un militant des droits de la personne, mais je vais vous parler pendant 5 minutes comme militant de la santé publique. Et je peux le faire, car je crois que les droits de la personne et la santé publique vont de pair. Et on peut travailler ensemble lorsqu'on veut augmenter les contrôles du sida. Et bien que je respecte la motivation de ce qui s'est passé au Botswana, le gouvernement a tenté d'augmenter le nombre de personnes qui connaissaient leur état VIH. Mon ami Ronald Lowe, qui est un professeur au KwaZulu-Natal, est mort du sida. Sa mort a fait que Edwin Cameron, qui est un militant des droits de la personne très bien connu, donc il a commencé à proposer qu'on a besoin de changer les approches qu'on a utilisées avec les contrôles de counseling volontaire. Edwin Cameron avait dit que Ronald ne serait pas mort si un médecin ou un praticien lui avait offert un test de contrôle pour le sida, plutôt que d'attendre que Ronald n'ait plus peur afin de demander ce même test. En fonction de ceci, Cameron suggère tout un changement de paradigme en disant que les bénéfices, les avantages des tests VIH sont beaucoup plus forts que les côtés négatifs. Donc, on peut éliminer toute cette question de consentement éclairé et les prérequis d'un test, d'un counseling pré-test. Je ne suis pas d'accord. Je crois que Edwin Cameron, même si ses intentions et ses motivations sont saines, est en train de proposer quelque chose qui est dangereux et qui va nous mener à une situation très difficile. L'avènement de l'accès au traitement a changé grandement les choses. Et très rapidement, et je ne suis pas là pour louer la réponse de l'Afrique du Sud, mais si vous regardez les faits ici, vous voyez une augmentation dramatique dans les tests de counseling volontaire, que que les chiffres ont doublé. Et maintenant, c'est un district à l'extérieur de Johannesburg. Et vous voyez que dans un an, on voit la même tendance dramatique, le nombre de personnes qui reçoivent du counseling et le nombre de personnes qui sont testées. Maintenant, si on regarde cette diapo, on voit que l'accès plus large veut dire aussi qu'il y a moins de formation pour les travailleurs qui font le counseling. Et même pour faire le suivi était faible et parfois inexistant. Alors là, vraiment, ça devrait être un signal d'alarme pour nous. Ce sont des enjeux qui sont très importants. Tout aussi importants que d'accroître le nombre de personnes qui sont au courant de leur bilan VIH et qui sont testées. Alors j'aimerais conclure avec des points assez généraux et des recommandations assez précises. Le premier point, c'est que tout ce débat, une plupart de ce débat, est basé sur anecdotes et pas sur une science saine. Et ça devrait nous préoccuper ici à une conférence scientifique. Il y a un vide, une lacune, un manque de monitoring et d'évaluation des tendances de tests. Et il y a aussi un manque d'investissement dans le contrôle et la promotion du contrôle et du counseling. Troisième point, on a tendance à vilifier le VCT pour le manque d'accès et d'incitatifs, mais c'est pas ça, c'est le manque d'accès au VCT lui-même. Et très souvent, un manque d'encouragement. Le quatrième point, c'est que le contrôle VIH est un enjeu de ressources humaines tout aussi qu'autre chose. Plus de 60 000 personnes offrent des services officiers ou services de santé publique. Alors, il y a des gens qui offrent des services de tests et de counseling. Il faudrait formaliser cette procédure. Alors, pour conclure, je dirais que oui, il faut augmenter le nombre de tests. Il faut dramatiquement rehausser le nombre de personnes qui sont au courant de leur bilan VIH. Mais il faut le faire de façon à ce qu'on puisse respecter l'autonomie de la personne et la dignité de la personne. Puisque somme toute, et c'est là où on parle de droit de la personne et la santé publique, le counseling existe pourquoi? Est-ce que c'est un luxe ou une imposition sur le droit de la personne ou s'agit-il d'une nécessité pour aider les gens qui doivent en faire une déclaration, les gens qui vivent avec un virus qui met en péril leur vie, etc., etc. Le counseling est une intervention médicale. Ce n'est pas simplement une imposition des droits de la personne. J'ai presque terminé. La question dont on doit discuter, c'est qu'il faut hausser le niveau de soins. Il faut avoir un bon niveau de soins pour le VIH. Alors, que faire à l'avenir? Eh bien, pour moi, les pays, l'OMS, doivent élaborer une politique pour recommander des contrôles routiniers et des recommandations, pas de façon neutre, de façon dirigée, avec du counseling, surtout dans les installations de soins à l'interne. Mais si c'est notre approche, il faut continuer. Donc, on va aller cibler des gens qui sont déjà malades, d'autres maladies, et on va perdre de vue des gens qui sont à l'écart. Alors, il faut avoir un incitatif, il faut avoir des initiatives, et il faut aussi avoir plus de modèles pour les autres maladies. Il faut avoir des tests qui sont disponibles à l'extérieur des centres de santé et pour aller tester les gens qui sont à risque de transmettre la maladie. Et il faut qu'il y ait des messages de prévention et des services. Donc prévention, les traitements, l'éducation de toutes les populations pour que tout le monde ait une bonne connaissance. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Merci. John Tidstrom est depuis quelques jours directeur exécutif du Global Business Coalition du VIH-SIDA. Jusqu'à tout dernièrement, il était président de Transatlantic Partners Against AIDS, les cas du SIDA dans l'Ukraine et la Russie. Et je crois qu'il a gardé une partie de ce titre puisque ces deux organismes se sont fusionnés. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. J'aimerais me joindre à tous et toutes qui veulent éviter ce piège des mauvais choix entre la santé publique et les droits de la personne et ses engagements. Comme les conférenciers ici aujourd'hui, on peut éviter ces pièges et il faut absolument les éviter. Et pour faire écho à ce que Marc a dit, qu'il nous faut faire davantage pour aller chercher l'information, analyser l'information, les renseignements. On ne devrait pas avoir peur de prendre de grands moyens et de tenter des expériences. Et même, j'aimerais féliciter le Botswana pour ce qu'il a fait et tant d'autres pays, d'autres institutions qui sont allés vers de l'avant, sont allés de l'avant avec les contrôles, sachant que l'avenir est incertain et qu'on n'a pas toujours les réponses, mais qu'aujourd'hui, l'état de la situation est inacceptable. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été émue hier soir à la cérémonie d'ouverture par les conférenciers principaux qui nous ont adressé la parole. J'étais déçue. Il n'y en avait pas un seul qui avait parlé des contrôles. Et puisqu'il faut passer à l'acte, il faut absolument inclure les tests, les contrôles. Et lorsque viendra l'occasion pour la ville de Mexico, j'espère qu'on aura fait beaucoup de choses. Mais j'espère que les conférences d'ouverture et que les autres événements vont se consacrer davantage à cette question des contrôles. Ceci dit, tous les conférenciers ont dit quelque chose d'important. Friki Skander de l'Indonésie a parlé de gens en lieux ruraux et urbains qui meurent tous les jours en Indonésie, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas leur état. Peter Piat nous a parlé des dangers de fragmenter cette réponse politique au VIH-SIDA. Dans un monde où 36 millions sur 40 millions séropositifs ne connaissent pas leur bilan de santé, c'est la plus grande fragmentation de toutes. Et il faut absolument la corriger. Hélène Gail, qui nous a rappelé de façon brillante qu'il nous faut toujours aller passer de l'idéologie à quelque chose de rationnel et à des recherches bien fondées pour avoir des bonnes politiques, des politiques de compassion. Et il faut faire plus pour aller chercher une information, mais par la suite, utiliser cette intervention pour garantir les libertés civiles des personnes touchées par le sida et le VIH. Lorsque Bill Gates nous dit qu'on fait face à des taux d'infection toujours croissants et notre capacité de suivre cette tendance n'arrive même pas à la cheville de ce problème, et il nous a rappelé que si on réduit les taux de prévalence, c'est vraiment la seule façon d'assurer un accès universel. La prévention est la clé angulaire et connaître son état de santé, c'est une composante très importante. La question n'est pas de savoir si on augmente les tests ou comment ou quand, parce que c'est maintenant. Car si on veut passer aux actes, il faut absolument offrir ces tests. Le secteur privé, je suis fier de représenter le secteur privé, et je ne parle pas tout simplement des membres des grandes entreprises, je parle des employés et leurs familles. Le secteur privé joue un rôle très important dans cette lutte. J'ai rencontré beaucoup de nos membres en Afrique, en Asie, qui militent pour avoir plus de tests, qui sont très proactifs, qui font la promotion des tests, du counseling volontaire, dans un contexte qui comprend des soins de qualité. Et non seulement pour les employés, mais pour les membres de la famille. Alors, ce sont des innovations assez épatantes et qui vont nous offrir de bonnes assises, que ce soit au niveau national ou sous-national. S'attaquer à la stigmatisation dans tous ces cas, c'est nécessaire. Et la Business Coalition n'accepte aucune politique SIDA-VIH qui demande dépistage pré-embauche ou qui fait preuve de discrimination en fonction d'un diagnostic. Alors, s'il y a des politiques chez nos entreprises, on travaille très fort pour les corriger. Des campagnes proactives pour encourager les tests, soit initiés par le fournisseur ou non. Ce sont des initiatives importantes et très efficaces. Et le secteur privé a son rôle à jouer, car aujourd'hui, beaucoup de gens ne se font pas tester. C'est un choix, car le processus du contrôle, bon, alors il y a des aiguilles, des tests sanguins. Alors d'avoir un test qui soit abordable, rapide, qui n'est pas envahissant, c'est là une façon importante, une bonne façon pour pouvoir intervenir pour le secteur privé. Un test qui n'a pas besoin de prise de sang. Merci beaucoup. J'aimerais donner l'occasion aux membres de la tribune de répondre à des questions entre eux s'ils en ont. On pourrait peut-être parler un peu des présentations à date, Madame la Ministre. Les points soulevés par mes collègues sont des points valables. Mais dans notre situation, nous n'avions personne pour nous apprendre. Nous sommes un pays de la taille du Texas avec 1,7 million d'individus et 17% sont affectés. Alors, il fallait vraiment s'asseoir avec tous les parties intéressées. Et c'est sûr, on apprend au fur et à mesure, mais les contrôles, les tests volontaires, le counseling, je vous ai montré les chiffres depuis le début. Au début, c'était très, très faible. Il y avait l'offre et même les gens qui en faisaient la demande. Il y a des gens qui, effectivement, vont demander ce test. Maintenant, entre la santé publique et les droits de la personne, le fait de demander des tests de routine était lié au fait d'être une femme. Les femmes sont un taux d'alphabétisation plus élevé. Alors, donc, lié au fait d'être une femme, avec une plus grande éducation, avec plus de visites chez le médecin et une utilisation pas toujours très assidue du condom. Et j'espère qu'on aura plus de choses à vous raconter d'ici la conférence à Mexico. Mais on a fait beaucoup de progrès. Merci. Des panélistes ont dit qu'ils aimeraient passer immédiatement à la période des questions. Mais ça va, Grace? Voulez-vous ajouter quelque chose? Je suis d'accord avec Madame la Ministre lorsqu'elle dit que la plupart des cas volontaires sont des cas de femmes au Botswana. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un nouveau niveau de stigmatisation dû au fait d'être une femme. Je dis Il doit y avoir des mesures globales afin d'avoir une plus grande implication de la part des hommes. Merci. Bon, très bien. Alors, il a trois micros. Quelque chose à ajouter? C'est Madame la ministre est en train de me dire que le gouvernement l'a fait. Moi, ce que je veux dire, c'est que apparemment, elle le sait. Il y a des gens qui disent que c'est les femmes qui sont responsables de ce virus. Et moi, mon point de vue, il y a des mesures. Si une femme est séropositive et là, on lui reproche le fait d'avoir passé le virus, elle va décider de rester chez elle pour ne pas être accusée. Ou il se peut qu'elle infecte son propre enfant. Alors, il faut s'éloigner de cette stigmatisation qui s'attaque plutôt aux femmes. Merci. Il y a trois micros. On a environ 37 minutes. À l'extérieur, si vous quittez, il y a des copies sur les directives internationales sur le VIH-SIDA et les droits de la personne. Tout à fait pertinent. Alors, je vous demanderai de vous identifier. Et je vous demande d'avoir des questions précises, concises. Je suis Raipile Kipursaki. Je travaille pour Bonella comme militante et éducatrice. C'est une question pour May Machilato. Et vous avez parlé d'un chiffre que 60 à 70% les gens qui ont besoin de traitement reçoivent le traitement. Je crois que votre statistique est basée sur les cibles 3 par 5, sur les 60 000 personnes d'ici 2005. Il y avait une autre conférence au Botswana où votre prêtre épidémiologiste du ministère de la Santé avait souligné que cette statistique est complètement faussée. C'est une statistique qui a été établie en 2000-2001. Alors, j'aimerais avoir un éclaircissement. Je crois que c'est tellement inexact. Je crois que c'est plutôt 30% ou même 20% des gens qui ont besoin des ARV reçoivent une thérapie ARV. Et aussi, je m'interroge sur votre motivation. J'aimerais... Il faut s'interroger. Où est-ce qu'on s'en va? Lorsqu'on fait des présentations sur le Botswana, est-ce que c'est d'intérêt de santé publique ou un intérêt tout à fait politique? Merci. Madame la ministre, j'aimerais souligner, avant l'avènement des autres pays qui utilisaient les ARV, Botswana avait déjà décidé d'offrir les thérapies ARV, même en 2000. Alors, on avait élaboré une étude afin d'estimer le nombre de personnes infectées, ainsi qu'une évaluation du nombre de personnes qui ont besoin de cette thérapie. Et le nombre, c'était 110 000. Je vous parle aujourd'hui, nous nous rapprochons des 70 000. Alors, notre cible 3 par 5, c'était 55 000. On a atteint ce chiffre-là bien avant. Et les niveaux de conformité sont plus de 95%, parce qu'on fait du counseling sur la conformité au traitement. Alors, et on est à 85% des gens qui ont besoin des thérapies ARV. Si vous allez dans le Global Health Report, vous allez le voir. Mais notre estimation, c'est de 60 à 70%. Et voilà les chiffres. Merci. Et aussi, et ces chiffres sont vérifiables, j'ai mes collègues ici. Les personnes qui sont responsables de la mise en œuvre sont ici. Et il y a quelqu'un ici, un militant pour les transsexuels qui est maintenant ministre, et c'est lui qui s'est occupé de la mise en œuvre de ces programmes qui étaient souhaités par le gouvernement. Merci. Bonjour, Donna Futterman. Je suis avec le Adolescent AIDS Programs dans le Bronx à New York. Et j'aimerais vous féliciter pour ce que vous faites à Botswana. Vous jouez un rôle de leader et vous êtes en train de sauver votre pays et votre peuple. Et je crois que nous devons reconnaître tous qu'il y aura beaucoup de modèles à l'avenir et quelque chose qui est tellement brillant. Et si c'est ce qui est très puissant, c'est qu'il faut évaluer ce qui marche, qu'est-ce qu'on peut améliorer et où est-ce qu'on s'en va. Mais j'aurais quand même quelques commentaires, mais brièvement, s'il vous plaît. Les deux points historiques. Premièrement, nous avons inventé ce modèle de counseling et de contrôle lorsqu'il y a eu un test d'anticorps. C'était même avant d'avoir un traitement. L'objectif pour le counseling et les tests était tout à fait différent. Tout a changé dans le VIH, sauf le modèle de counseling et de tests. Le deuxième point, ce que j'ai vu, c'est que ce ne sont pas les gens qui refusent les tests, ce sont les fournisseurs qui ne veulent pas toujours l'offrir. J'ai travaillé pendant 2 ans avec des praticiens. Il y avait un petit blabla de 5 minutes de counseling. On a doublé les chiffres et on est passé de 10 à 20%. Et 10 à 20%, c'est pas du tout la cible. Je crois que ce sont les gens qui prodiguent les soins ou le counseling qui sont pas en mesure d'offrir ce counseling ou ces tests volontaires. Mon expérience comme médecin, c'est pas quand on le sait qu'on a besoin de counseling, c'est au fil des années avec le temps, puis ça devient tout à fait nécessaire. Et il faut voir, le counseling est tout à fait nécessaire, mais c'est pas toujours en pré-counseling où on en a le plus besoin. Après 25 ans de cette épidémie, on a encore un tiers des gens aux États-Unis qui ne connaissent pas leur état de santé. Le modèle que nous avons n'est pas adéquat. Et donc, j'aimerais féliciter tous les membres de cette tribune, car vous êtes en train de vous interroger, de scruter tout ça à la loupe, et la différence entre les droits de la personne et la santé publique, il ne devrait pas avoir une division entre les deux. Nous formons une petite partie du monde des gens qui s'inquiètent du VIH. On doit travailler ensemble, et je crois qu'il y a des éléments qu'on doit surveiller et étudier ensemble. Merci.
Est-ce que quelqu'un veut répondre, Christine? Merci. Je crois qu'une des choses sur lesquelles on est tous d'accord, et de plusieurs façons, les anciens modèles ne fonctionnaient pas. Mais la question, c'est est-ce que nos nouvelles suggestions vont fonctionner? Et le fait que davantage de gens se fassent contrôler, est-ce que ça va permettre aux gens de vivre avec l'information qu'ils reçoivent? Lorsqu'on a introduit cette idée au Botswana, au début, on était heureux de penser à une offre qui se fait de routine et que les gens peuvent accepter ou refuser, de donner aux gens un outil qui pourrait changer leur vie. La question devient, est-ce que c'est le modèle qu'on a utilisé, le VCT, et est-ce que ça peut seulement être... Est-ce que la seule autre option, c'est le refus ou une offre routinière qui donne aux gens la possibilité de dire non et d'identifier leurs besoins pour prendre une décision et peut-être regarder le counseling à faire? Est-ce que c'est le counseling qui est le problème? Peut-être qu'il faut scinder le counseling du contrôle. Alors peut-être qu'on polarise ce débat entre l'option de refus et l'option du VCT. Peut-être qu'on peut regarder le VCT ou d'autres modèles. Donc, il faut garder ça à l'esprit dans nos discussions. Madame la ministre, rapidement, eh bien, ce qu'elle a mentionné au sujet de l'hésitation des professionnels, c'est vrai. Au Botswana, à tous les mois, le ministère parle à la radio et les gens nous appellent pour dire comment ils se sentirent. On a eu ça au ministère de la Santé il y a 2 mois. Et 2 personnes nous louangeaient pour leur avoir permis d'avoir accès aux antirétroviraux et aux contrôles. Mais ils disaient, Madame la ministre, parlez à vos médecins, certains d'entre eux, lorsqu'ils devraient vous expliquer les contrôles de routine, ils ne disent rien. Vous devez leur envoyer une personne en autorité pour qu'ils offrent les tests aux patients. Parce qu'après tout, les médecins sont aussi des êtres humains. Il faut qu'ils aient le courage d'offrir les tests. Merci. Micro numéro 3, présentez-vous, s'il vous plaît. Mon nom est Rina Geibel et je travaille pour Save the Children dans l'Est de l'Afrique du Sud. J'aimerais que les panélistes nous parlent de l'accès au contrôle pour les enfants dans les différents modèles. Et y a-t-il des commentaires sur l'âge de consentement? Dans le cas du Kenya, pour des tests volontaires, c'est le conseiller, si l'enfant a moins de 18 ans, c'est lui qui va décider s'il est suffisamment mature pour avoir une session de counseling et de contrôle. Oh, c'est un sujet épineux. Qui veut commenter? Sophie? Eh bien, j'ai un commentaire rapide, mais on devrait tenir une conversation plus longue. Les jeunes qui demandent à être testés sont matures. Et le fait que quelqu'un demande d'être testé, ça signifie qu'ils sont responsables et devraient avoir le droit de recevoir le résultat eux-mêmes. Je comprends que la question suivante, c'est qui a le droit de connaître ces résultats. Et moi, ce que je crois dans ce contexte, c'est que les gens que ce jeune qui a eu assez de responsabilité d'aller voir pour recevoir le test, c'est le jeune qui devrait décider qui va recevoir le résultat. Un commentaire de la ministre au Botswana, compte tenu de notre niveau élevé de PMCTC, on croyait que 200 000 enfants, de 8 000 enfants avaient le VIH-SIDA et 6 000 étaient traités. Maintenant, être traité, on sait qu'ils suivent les traitements, mais on ne connaît pas le pourcentage de ce 6 000 ont besoin d'ARV. Et c'est simplement parce que nous ne commençons le test avant, il fallait attendre qu'ils aient 18 ans. Alors, on a maintenant une idée de ce qui se passe parmi les enfants. Micro numéro 1, Ian. Bonjour, Ian McLeod, je travaille pour l'UNICEF. Ma question était la même que notre collègue de Save the Children, mais parce que Marc n'a pas répondu, eu l'occasion de répondre, j'aimerais que Marc nous parle de l'accès des enfants et d'adolescents au contrôle, surtout par rapport dans le contexte du droit des enfants, des droits de la personne, etc. Marc. Eh bien, je crois qu'il y a plusieurs questions ici. D'abord, le fait que les enfants souffrent lorsqu'on parle d'accès aux soins de la santé, aux traitements contre le VIH et au contrôle de VIH. Lorsqu'il s'agit de jeunes enfants et de nourrissons, le besoin de permission des parents est d'autant plus importante et exige un counseling adéquat pour accompagner ce contrôle si le contrôle devient séropositif, pour s'assurer qu'il va recevoir des soins adéquats. Donc, encore une fois, le counseling est lié à l'intervention des soins de santé à ce niveau-là. Maintenant, lorsqu'on parle des adolescents, en Afrique du Sud, par exemple, ils viennent de modifier leur loi pour permettre aux adolescents et enfants de 12 ans et plus de donner leur propre consentement et de demander un contrôle du sida. Je ne crois pas qu'un adolescent ou un enfant qui décide qu'il veut recevoir un contrôle du VIH devrait se faire refuser ce contrôle. Mais encore une fois, je crois que si les adolescents ont accès aux soins de la santé, et très souvent ils n'y ont pas accès parce qu'ils n'existent pas, mais s'ils y ont accès, le counseling pour préparer une personne à un diagnostic de séropositivité et pour leur communiquer l'information nécessaire devient une question de santé et de droits de la personne. Alors, je travaille dans plusieurs pays, y compris le Botswana. Je suis une médecin. Alors, pour faire suivre à la question sur l'accès au contrôle pour les adolescents, j'aimerais qu'on ait un commentaire sur la ministre du Botswana. Quelle est la situation au niveau des adolescents qui ne sont pas majeurs pour obtenir des contrôles? Et les contrôles de routine, ont-ils réduit les différences entre les villes et les campagnes et au niveau de la prévention et des soins? D'accord, merci. Je vais répondre à la deuxième question. Est-ce que ça a diminué les disparités? Oui. La réponse est oui. Maintenant, tous nos hôpitaux, que ce soit des soins primaires, offrent des soins, des services de soins pour le VIH-Sida. Et ça se communique aux cliniques aussi. Donc, maintenant, les soins sont disponibles dans les cliniques. Et à travers nos partenaires, nous avons pu avoir de l'IDCC dans plusieurs cliniques rurales pour que les gens y aient accès. Et ce que j'observe, il y a des grandes réussites. Il y a beaucoup moins de funérailles. Les funérailles ont diminué. Et dans les hôpitaux pour femmes, il y a même des lits vides. Maintenant, l'âge de la majorité au Botswana est de 18 ans et plus. Mais nous envisageons le diminuer. On travaille avec Bonella et les gens des droits de la personne pour dire, à 16 ans, une personne ne devrait pas avoir à amener leurs parents. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont traiter les 16 ans et 16 à 18, mais on veut que ce soit légal. Maintenant, en termes de services à l'école, les jeunes de 16 ans ont des services de prévention à l'école, de même que l'éducation et tout le reste. Micro numéro 3. Mon nom est Stegas Kama. Je suis la directrice associée du programme de VIH-SIDA pour les enfants. Moi, je n'ai pas une question, mais je voulais clarifier la position de l'OMS et de l'UN-SIDA au niveau des contrôles dans des environnements cliniques, parce que j'ai constaté qu'il y avait de la confusion. D'abord, le counseling et les initiatives demandées par les professionnels et se fait dans les zones d'incidence élevée dans un environnement clinique. Et l'UN-SIDA croit que les contrôles et le counseling sont le point d'entrée pour le traitement, la prévention et les soins. L'OMS et l'UN-SIDA aussi croient que le counseling et les contrôles demandés par les professionnels devraient être demandés suivant les principes de droit de la personne. Confidentialité pour le test, consentement informé et counseling suite aux résultats. Nous croyons aussi à l'OMS que le patient a le droit de refuser de se faire contrôler une fois qu'il a reçu l'information. Merci beaucoup. J'aimerais aussi dire, je sais que les tests demandés par les professionnels ne veut pas dire qu'on est contre les demandes des patients. Nous croyons que les tests demandés par les patients devraient continuer comme autre mécanisme de contrôle, de même que les contrôles demandés par les professionnels. Merci beaucoup. Micro numéro 1. Je veux vous parler d'un patient au Malawi qui est décédé de cryptoméningite. Et lorsqu'on a regardé son passeport santé, on a découvert que ce même patient avait demandé des soins pour une pneumonie sévère à 2 mois auparavant. Et contre des éruptions cutanées. Donc, il y a un besoin très important d'augmenter les tests parce qu'il y a un manque énorme. Mais ça peut toujours être à la demande des professionnels. Mais cette demande doit être ciblée. Ce que l'on a fait dans nos projets, c'est qu'on a développé une liste de contrôle pour le professionnel de la santé pour lui donner des bases pour qu'il sache qui référer. Parce que s'il a 300 patients en attente, on ne peut pas leur donner du counseling à chaque. Il y aura une session d'affiche la 1 7.1, où on vous présente cette liste qui a aidé à augmenter le nombre de gens qui demandent d'être testés. Micro numéro 2. Mon nom est Paul Purcell et je travaille pour une organisation qui s'appelle le Gender Health. Ma première question porte sur le consentement informé. Je sais qu'on en a parlé un petit peu aujourd'hui. Je pense que Sophia, vous y avez alludé. Ce que j'ai vu dans les politiques existantes et dans les normes existantes au niveau de l'offre routinière de contrôle, c'est que c'est mal défini. Et les critères ou les éléments qui déterminent si le consentement informé a effectivement été réalisé n'est pas clair non plus. J'aimerais que les panélistes nous disent en quoi consiste le consentement informé et si vous êtes responsable d'une politique à l'échelle nationale au niveau des tests sur demande du professionnel. Maintenant, ma deuxième question. Il semble que ce soit une initiative ou que ces politiques au niveau des nouvelles approches au contrôle, vise à satisfaire les besoins de la population en général et les besoins des populations invisibles comme les travailleurs du sexe et les gays et lesbiennes ne sont pas traités par ces nouveaux paradigmes. Alors, quelles sont les conséquences pour ces populations invisibles? Bon, il y a beaucoup dans votre question et malheureusement, chacun des panélistes n'aura pas de réponse. Mais est-ce que quelqu'un voudrait y répondre? Marc? En parlant pour l'Afrique du Sud, le consentement informé est bien défini dans nos normes nationales. Le problème, c'est que c'est mal compris par les professionnels de la santé dans la plupart des cas. Donc, il y a une certaine confusion qui se transforme en peur sur comment obtenir le consentement informé et dans la nature du consentement informé. On ne discute pas du fait que en exigeant le consentement informé, tout le monde a besoin d'une session de 45 minutes de counseling pré-test. Il y aura des gens qui ont différentes compréhensions de leur risque du VIH et tout ça, qui peut faire en sorte qu'on obtienne un consentement informé en quelques minutes pour certaines personnes, mais que ça prenne davantage de temps pour d'autres personnes. Mais l'essence même de la définition doit être que la personne à qui l'on offre et à qui on recommande de subir un test doivent accepter le test sur la base de sa compréhension des conséquences du test au niveau de sa vie à plusieurs niveaux. Le sujet que vous mentionnez, au niveau du danger des populations invisibles, qui deviennent encore davantage invisibles et encore davantage à risque. Et c'est un réel danger qui n'a pas reçu suffisamment d'attention dans ce débat, du fait que plusieurs des groupes que vous mentionnez n'ont pas accès aux soins de la santé parce qu'ils ont peur de la stigmatisation et des attitudes des professionnels de la santé. Et par conséquent, il y a un nombre disproportionné. Il y a une disproportion énorme dans les soins et qui va augmenter si ce changement de paradigme ne tient pas compte de tous ces facteurs. Et j'aimerais ajouter que un des problèmes est dans la mauvaise interprétation de politiques qui sont rédigées de façon trop générale, qui peuvent se propager au-delà du soin de la santé et affecter des populations vulnérables comme les toxicomanes et les travailleurs de la santé. Il y a aussi des conséquences au niveau de tests obligatoires sur la rue ou dans des centres d'immigration, dans des prisons et des pénitenciers. Lorsque la politique dit routinière, ne clarifie pas que l'on parle uniquement dans un environnement clinique. Et ça, ça nous préoccupe énormément. Greg Gonzalez, de l'Afrique du Sud. C'est pour Marc et Christine. Dans la formation qu'on a en droit de la personne, en Tanzanie, en l'île Maurice, il y a des projets de loi qui vont criminaliser la transmission du VIH à deux endroits. Et les ONG du SIDA disent, mais qu'en est-il des droits des non-infectés? Donc, la criminalisation, ce sont pas seulement les fous et les moralisateurs qui disent ça. Alors, mettez ça dans la soupe des tests et essayez de voir comment ceux qui veulent criminaliser la transmission du VIH-SIDA vont jouer dans le jeu des contrôles. Eh bien, Greg Gonzalez soulève un point très valable. Il y a des données qui nous indique que des populations veulent que l'on criminalise la communication volontaire du VIH et des gouvernements qui suivent cette voie. Le danger d'une offre routinière de contrôle pour le VIH qui soit abusée, c'est que vous allez avoir des dizaines de milliers de gens qui, en théorie, connaissent leur séropositivité et par conséquent peuvent être accusés de communication volontaire parce qu'ils ont subi un test du VIH et un dossier existe qu'ils ont été contrôlés. Mais en réalité, le processus des tests ne leur a donné aucun conseil au niveau de la divulgation et aucune possibilité d'intérioriser les conséquences d'un test positif et n'a pas tenu compte de l'environnement social immédiat de la personne. Et compte tenu du fait que l'on propose des offres routinières, surtout dans des environnements cliniques, ce que cela signifie, c'est que les femmes vont être contrôlées davantage que les hommes et que la tendance vers la criminalisation et la stigmatisation, le fardeau, va être porté davantage par les femmes. Donc, c'est un autre avertissement dont il faut tenir compte lorsque l'on cherche la voie de l'avenir dans ce débat. Christine, pour ajouter à ça, je crois que les questions que Greg a discutées, la demande au Botswana que les femmes qui savent qu'elles sont séropositives et prennent la décision d'avoir un autre enfant et qui sont accusées par les politiciens, par d'autres politiciens qui communiquent le virus, ça lève le risque de blâmer les femmes. Alors, il faut en tenir compte. Je me souviens qu'on recevait des demandes de la police qui disent on sait que cette femme est sur PMCT, mais elle allait, est-ce qu'on devrait l'arrêter? Donc, il y a cette façon de penser. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on doit tenir compte du contexte sociétal où les tests se produisent. Donc, c'est un domaine dont on doit penser, on doit tenir compte de tous les dangers lorsque les tests de routine sont mal appliqués. Micro numéro 1, Isman d'Indonésie. Une question rapide à ceux qui voudront bien répondre. Peut-on combiner les tests volontaires? Nous avons 100 000, surtout des femmes, qui vont à l'étranger comme travailleurs immigrantes. Elles doivent être séronégatives. Donc, on a besoin de tests obligatoires. Mais lorsqu'on parle de tests volontaires, est-ce qu'on peut combiner les deux? D'accord. Qui veut s'essayer? Allez-y, Marc. Très rapidement, c'est un problème très grave. Lorsqu'un test négatif est une exigence pour être immigrant dans le pays, y compris les États-Unis, tout ce que je peux vous dire pour répondre à votre question, l'approche que nous recommandons en Afrique du Sud avec l'armée, avec la force de défense nationale, est qu'il peut y avoir des situations où... Non, je n'irai même pas là. Je ne ferai pas de lien entre les tests obligatoires et volontaires. Si les gens doivent être testés dans un processus d'immigration, il y a une responsabilité que ces tests aient lieu avec un consentement informé et du counseling, et la personne qui subit le test doit être au courant des conséquences d'un test positif. Je vais ajouter quelque chose ici. C'est aussi le fait, lorsque vous mettez la stratégie VTC en place, il faut être au courant des incompatibilités avec d'autres lois ou politiques qui peuvent faire en sorte que les gens ne voudront pas venir de l'avant. Et ça doit être intégré dans la stratégie. Et il faut travailler très fort pour se débarrasser de la politique de test obligatoire. Et je veux en profiter en tant que présidente pour dire que ce serait une excellente chose que les autorités indonésiennes fassent. Donc, demandent des réunions avec les pays qui exigent que les femmes qui entrent dans le pays soient séronégatives ou d'obtenir l'aide des organisations internationales à cette fin. Je suis le Dr. Poïme Sikun, je suis la directrice du service de la santé VIHCD au Botswana. J'aimerais vous mentionner que ce que la ministre a dit est tout à fait vrai. En tant que technocrate, je peux l'affirmer. Je veux aussi ajouter qu'en tant que pays, nous avons eu l'idée de tests routiniers. C'était basé sur des données cliniques. En 2003, nous avons fait des tests, des sondages auprès de femmes et nous avons compris que plus de 90% des femmes, la raison pour laquelle ont refusé les tests, c'est par peur. Donc, nous avons eu une réunion et on essayait de voir comment on pouvait inciter davantage de gens à surmonter leur peur. Et c'est de là que vient l'idée des tests de routine. Ensuite, on a visité le pays, on a eu des groupes de discussion avec les communautés et en fait, et nous avons basé nos politiques sur ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit que cette question, pour elles, chaque fois qu'elles vont dans une clinique, elles s'attendent à subir un test. Donc, chaque fois qu'on prend une prise de sang pour les leucocytes, peu importe, elles pensaient qu'elles subissaient un test de VIH. Donc, elles ne disaient pas que le fait qu'on les mettait dans une petite salle pendant des heures, ça génère davantage de peur et elle éventuellement refuse. Donc, on devait faire quelque chose à ce niveau. C'est la raison pour laquelle la notion d'offre routinière est arrivée sur le tapis. Mais il faut aussi faire de l'éducation. On avait de l'éducation pré-test. On a tout fait ce que l'on pouvait, y compris l'aspect que ces femmes avaient le droit de refus. Donc, chaque fois qu'on fait de l'éducation de groupe, avant les tests, toutes ces femmes sont informées avant qu'on leur offre le test. La question des femmes et la violence et les droits de la personne, nos programmes sont conçus pour les femmes. On a un pacte. D'abord, comme je vous l'ai dit, l'éducation pré-test, vous avez le droit de refuser, vous donne le droit de refuser et on s'assure que ces femmes ont accès au traitement si elles sont admissibles et on a du soutien pour elles, pour leur famille et leurs partenaires. Et dans les cliniques de maladies infectieuses, à travers le soutien et l'aide de la société civile, le réseau du Botswana des gens qui vivent avec le VIH-SIDA est disponible et les organisations fournissent du counseling pour ces femmes et leurs familles pour leur donner du soutien. Alors, je vous demande de conclure. Et aussi, en moins d'une minute, je vous en prie. Mais, en tant que pays, cette année, nous augmentons le programme d'offres routinières. Je veux simplement éclaircir ça. Et nous réformons nos droits, nos lois pour protéger les gens contre la discrimination. Merci. Alors, on ne fera pas de commentaires sur Alors, je travaille en laboratoire pour assurer la qualité des tests. Dans le monde occidental, 70% des décisions médicales sont basées sur des résultats de laboratoire. Et le niveau de compétence, les gens qui font plusieurs milliers de tests. Dans ce contexte, et par rapport à ce que l'on dit ici, et je félicite au moins deux des conférenciers qui ont mentionné le fait que les résultats de laboratoire dépendent d'un bon programme de laboratoire et des bons services de laboratoire. Donc, pour sauver du temps, je ne poserai pas de questions, mais j'invite les gens à intégrer les besoins de bons services de laboratoire dans ces discussions, parce que les laboratoires dans plusieurs des pays dont on parle ne sont pas pauvres, ils sont plus que pauvres. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas bien intentionnés ou ne travaillent pas, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de financement. Donc, je vous en supplie, dans ce genre de forum, les services de laboratoire, vous devez les intégrer à vos discussions. Et merci beaucoup d'y avoir fait allusion cet après-midi. Micro numéro 1, s'il vous plaît. Bonjour, merci. Mon nom est Cynthia Rothschild. Je suis avec l'Organisation des droits de la personne de la femme qui s'appelle Women's Global Leadership. Sophia, vous avez mentionné votre préoccupation, et j'utilise vos mots, des effets négatifs de l'augmentation du nombre de tests lorsque c'est mal fait. Et vous avez parlé de la violence et des autres violations des droits de la personne comme étant une préoccupation que vous avez. C'est quelque chose que la communauté des droits de la femme qui les préoccupe, et on a même publié un rapport qui s'appelle « Renforcer la résistance » qui regarde les liens entre la violence aux femmes et le VIH. Sophia, pourriez-vous nous dire plus précisément quelles sont vos préoccupations au niveau de la violence contre les femmes et les tests mal effectués? Très rapidement, s'il vous plaît. Bien, pour sauver du temps, merci pour la question. Pour sauver du temps, je vais vous dire très rapidement qu'il y a des problèmes qui portent sur ce qui se produit dans le domaine médical. Il y a des problèmes de violence suite à la divulgation, tant au niveau de la femme que de sa famille et sa communauté. Et les interventions sont requises à chacun de ces niveaux. Et dans les faits, lorsqu'on regarde la violence est une question qui doit être étudiée de beaucoup plus près et avec plus d'attention au niveau de sa signification, tant au niveau des droits de la personne, mais comment il y a un renforcement et les interventions qui regardent les deux ensemble, les résultats de tests et la violence, comment on peut les... Bon, Richard, je ne suis pas convaincu que ce soit clair, qu'on soit tous d'accord sur les droits de la personne dans le processus. Je pense que c'est malheureux, par exemple, que l'OMS n'ait pas envoyé qui que ce soit pour siéger sur le panel, étant donné que l'OMS veut des tests de routine à l'échelle mondiale. Et dans une consultation récente à l'OMS sur cette question, il y a eu une résistance très forte à l'idée d'une offre routinière. Il était très, très clair que ce que l'OMS voulait, c'était des tests avec refus potentiel régulier. Alors, pourquoi aurions-nous ce problème ou pourquoi l'OMS ou le gouvernement aurait-il tant de problèmes avec une offre routinière de tests plutôt qu'un refus de tests, à moins qu'ils soient préoccupés que les gens fassent le mauvais choix si on leur donnait la possibilité d'avoir un test du VIH? Alors, pour moi, ça illustre un manque de respect aux droits humains lorsque l'on veut tester les gens à moins qu'ils ne le refusent. Et à un niveau national, je me demande si le ministre pourrait faire un commentaire sur la situation au Botswana. La documentation sur les politiques au Botswana a établi clairement que le consentement informé au VIH n'est pas requis dans certains cas, y compris les femmes enceintes. Maintenant, si on croit vraiment qu'on devrait respecter les droits de la personne dans le test, pourquoi avoir une politique qui établit que vous pouvez vous passer de consentement informé dans ces situations-là? Alors, on doit contester l'idée qu'on peut décrire certaines choses comme une offre routinière, comme ce que j'ai entendu, mais en réalité, lorsque c'est un test avec droit de refus, alors ça soulève des préoccupations au niveau des droits de la personne.
Je ne sais pas si j'ai bien compris un document de politique disant que le consentement éclairé, on n'a pas une politique comme celle-là. Notre politique souligne le consentement éclairé avec une complète confidentialité. Je chercherai des commentaires de vos collègues parce qu'il y avait une politique, un projet de politique disant que le consentement éclairé n'était pas requis pour la femme enceinte. Je crois que c'est encore la politique et que les directives qu'on utilise pour former les professionnels de la santé, quand est-ce que c'est un consentement non éclairé? Bon, il y en a pour les femmes enceintes. Quoi d'autre? C'est peut-être nos technocrates ici peuvent vous confirmer la chose, mais c'est avec ça que nous travaillons. Nous parlons d'un consentement écrit, pas éclairé. On parle de consentement écrit parce que beaucoup, avec l'expérience vécue avec les textes, les gens ne veulent pas signer. Alors, on parle d'un consentement éclairé, routinier, ça fait partie de notre politique. Bon, je crois qu'il nous reste juste assez de temps pour encore une question, malheureusement. Catherine Hansen, Center for HIV Loan Policy aux États-Unis. Je voulais mettre au jour quelques faits concernant la politique américaine, parce qu'on l'a mal caractérisée ici et ailleurs. La suggestion, premièrement, que les tests et que ces lois, les lois sur la confidentialité aux États-Unis, ont été adoptées lorsqu'il n'y avait pas de traitement. Ce n'est pas vrai. La loi à New York et la plupart des autres lois aux États-Unis ont été adoptées vers la fin des années 80, où il y avait la prophylaxie PCP, où il y avait les contaminants, où il y avait des traitements, et ACT aussi était accessible, était une forme importante d'évaluation. Et la suggestion qu'il y a une preuve quelconque disant que le counseling est un obstacle au test, ça veut dire que vous n'avez pas regardé les données aux États-Unis où la transmission verticale a été quasi éliminée dans la plupart des États, y compris l'État de New York, où il y a un consentement éclairé, où on offre du counseling aux femmes enceintes et des tests. Et c'est le cas dans la plupart des États. Et donc, il y a plus de femmes qui sont impliquées dans leurs propres soins. Et donc, c'est beaucoup mieux pour elles, pour la grossesse et pour le bébé, en attendant l'accouchement. Ce qui est important, c'est que c'est chez les professionnels de la santé, les fournisseurs de santé. Mais la réponse au problème avec ces fournisseurs de soins de santé, on ne peut pas faire fi de la preuve aux États-Unis où ils étaient tenus de donner des tests. On ne parle pas éliminer ce droit fondamental de donner son consentement avant d'être testé. Maintenant, si les États-Unis disent que nous n'avons pas les ressources dans notre système de santé pour s'assurer qu'il y ait un counseling, car notre système est débordé. Mais écoutez, je vous offre, mais je suis vraiment désolée, on a des directives très strictes quant à l'horaire. J'aimerais remercier les membres de cette tribune d'experts pour des idées bien présentées, bien formées. Alors, j'espère que vous allez continuer avec ces mêmes débats tout le long de cette semaine. Merci.